CITV vous présente « Bonjour chez vous », l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs.
Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de « Bonjour chez vous ». Aujourd'hui, notre thème du jour est « Persévère jusqu'à son salut ». Bonjour à tous.
Bonjour Yveline.
Bon, un bon thème, un gros thème. Bien lourd pour finir la semaine en ce vendredi. Ah bah oui, du lourd.
C'est du lourd.
Quand je dis, c'est ça.
Du gros calibre.
Merci, c'est ça. Un bon thème important, la persévérance jusqu'au salut. Parce qu'il en faut de la persévérance. Parfois, en un mot, on peut gagner une âme à Christ. Et parfois, il en faut des mois, voire des années. Et on va voir aujourd'hui justement cette persévérance qui est nécessaire et nous aurons le témoignage de Yanis Gauthier à la fin de cette émission, dans la deuxième partie de cette émission, qui nous a raconté comment justement sa femme, qui n'était pas encore sa femme d'ailleurs à ce moment-là, ou qui l'était peut-être, je ne sais plus exactement, en tout cas a persévéré alors qu'il était en prison pour l'amener jusqu'au Seigneur, et ça a pris quand même du temps et beaucoup de persévérance. Et donc on va parler de ce thème aujourd'hui en commençant avec toi Aurélie dans la pensée du jour.
Alors aujourd'hui, on va tout simplement prendre le temps d'encourager les personnes qui désirent amener leur proche au Seigneur. Alors vous êtes peut-être là, vous écoutez, et puis ça fait longtemps que vous parlez à votre mère, à votre père, à vos frères, à vos sœurs, vos collègues de travail, vos amis, vous leur parlez du Seigneur, mais force est de constater qu'ils sont résistants, ils disent non. Mais aujourd'hui, vraiment, on va vous encourager à persévérer et à aller de l'avant. Pourquoi ? Parce que derrière le salut de toutes ces personnes, il y a simplement un enjeu qui est éternel. Il s'agit vraiment d'une question de vie ou de mort. Dans Deutéronome 30, au verset 19, la Bible nous dit, c'est Dieu qui parle, « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Alors, les personnes pour qui, à qui vous êtes en train de parler du Seigneur ont un choix à faire devant elles, et c'est celui de la vie. Mais pour qu'elles arrivent à faire ce choix, mais il faut qu'il y ait quelqu'un derrière qui paye un prix. Vous savez, Dieu, il a payé sa part, il a fait sa part en donnant son fils Jésus, comme la Bible nous le dit, et Jésus a payé le prix pour tout le monde. Maintenant, il va aussi falloir que vous fassiez votre part pour amener ces personnes au salut, parce que, n'oublions pas, Satan aussi est là pour faire sa part. Et sa part, c'est tout simplement de voler la parole que vous semez dans la vie de ces personnes-là. C'est chercher à ce que ces personnes se détournent du Seigneur et n'aient aucune part à la vie de Christ. Mais vous, vous avez une part à jouer. Et cette part se joue en combattant dans la foi pour les personnes à qui on parle au Seigneur. Alors, ne soyez pas surpris de la réaction des personnes à qui vous parlez lorsqu'elles rejettent la parole. Parce que la Bible nous dit, dans 2 Timothée 4, verset 3, « En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. » Oui, il y a des personnes qui ne supportent pas la saine doctrine. Il y a des personnes que lorsqu'on leur parle du Seigneur, elles ne le supportent tout simplement pas. Mais cette réticence ne doit pas nous décourager, comme si on n'en était pas informé. Au contraire, cette réticence doit nous forcer à persévérer et surtout à compter sur Dieu. Ce qui est impossible aux hommes, on le sait, c'est possible à Dieu. Ouais. Et là, aujourd'hui, vous dites des simples paroles à ces personnes que vous essayez d'amener au Seigneur. Vous pensez que ces paroles tombent dans le vide, mais c'est faux. Ce sont de véritables semences puissantes que vous êtes en train de semer dans la vie de ces personnes. Dans 2 Timothée 4 encore, la Bible nous dit « Je t'en supplie devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts au moment de sa venue et de son règne. Prêche la parole, insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non, refute, reprend et encourage. » Et ici, il demande vraiment d'insister en toute occasion. Alors peut-être aujourd'hui, il vous faut juste continuer à insister. Il faut continuer à croire que vos paroles ne sont pas vaines. Même jusqu'au dernier jour de cette personne-là sur la terre, vous ne savez pas ce qui peut se passer, mais Dieu, il sait toutes choses. Si on considère, par exemple, le brigand qui était sur la croix avec Jésus, c'était son dernier jour. Et alors que l'autre est en train d'insulter Jésus, lui, il a reconnu qu'il a dit à Dieu, « Mais toi, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » C'était sa dernière, presque ses dernières minutes, ses derniers instants sur la terre. mais il a quand même pu donner sa vie au Seigneur à ce moment-là. Ça veut dire que tout est possible. Ça veut dire que on ne connaît peut-être pas le jour, vous ne connaissez certainement pas le jour où la personne derrière laquelle vous courez aujourd'hui va dire « Oui, enfin, j'ai donné ma vie au Seigneur ». Mais vous devez persévérer, vous devez le faire avec foi, sachant que les paroles que vous dites, c'est des semences, et qu'à un moment ou à un autre, Dieu saura comment rendre ces semences vivantes dans la vie de cette personne.
Amen, bon. Amen, amen. On a besoin de se fortifier dans ces moments-là. Hein. Quand on a semé, 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 et que la récolte tarde à venir, on a vraiment besoin de se fortifier. Et je me souviens, la semaine dernière, j'ai lu un article sur un magazine chrétien sur Internet, et c'était Francis Chan qui racontait qu'après 30 ans d'évangélisation de son meilleur ami d'enfance, son meilleur ami est venu à Christ. 30 ans. Ça a pris 30 ans. Alors, c'est pas 30 ans non plus hyper suivi parce qu'il voyageait, mais régulièrement, il l'avait à cœur. Régulièrement, il priait pour lui. Dès qu'il pensait à lui, il priait pour lui. Ouais. Et pendant 30 ans, il a continué comme ça. Il lui avait parlé. Son meilleur ami n'était pas intéressé. Il avait insisté. Ça n'avait rien donné, mais il avait continué de prier pour lui. Et un jour, alors qu'il allait faire une conférence dans la ville de son meilleur ami, il s'est dit, bah, tiens, je vais l'inviter. Peut-être qu'il viendra. Et à cette conférence, son meilleur ami a rencontré Jésus. Donc, moi, quand j'ai lu ça, ça m'a vraiment encouragée. 30 ans, ça paraît énorme, mais ça valait la peine de persévérer. On va regarder notre verset du jour, Luc 19, 10. « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Donc, s'il est venu sauver ce qui était perdu, ben, ça veut dire que ça peut prendre du temps jusqu'à ce qu'on les retrouve. Donc, il y a vraiment cette notion de persévérance. Quelqu'un qui est perdu, c'est perdu, perdu. C'est pas quelqu'un qui était un petit peu là, mais il faut juste l'aider à revenir dedans. C'est que vraiment, il y a des personnes qui sont vraiment perdues, qui ne connaissent absolument rien à l'évangile, ou qui connaissent même l'évangile, mais qui n'ont pas compris son cœur, et puis finalement, qui ont vraiment besoin qu'on s'accroche à eux, qu'on persévère pour eux, pour leur salut, qu'on donne tout ce qu'on a pour eux. Et Aurélie, comment on peut faire de manière concrète et pratique pour justement persévérer sans être non plus complètement harcelant et insupportable avec certaines personnes?
Mais ça prend beaucoup de sagesse, en fait. Parce qu'il faut parfois penser que même nous, pour beaucoup, lorsqu'on nous a parlé du Seigneur, on était réticents. On n'a pas dit oui le premier jour. Et parfois, moi, j'aime me rappeler des choses qui m'ont fait dire oui au Seigneur. Parce que moi, j'étais réticente et je sais que l'amour a joué un rôle vraiment très important dans ma conversion parce que la personne qui l'a fait n'était pas en train de me faire passer pour une grosse païenne alors que lui, il était super chrétien. Et c'est un modèle aussi qu'on retrouve toujours dans la parole. Ce verset de 2 Timothée, vraiment, sur lequel je me suis basée pour faire la pensée, quand il dit « prêche la parole, insiste en toute occasion ». Qu'elle soit favorable ou non, refute, reprend et encourage. Il dit, fais tout cela avec une pleine patience et un entier souci d'instruire. Donc vraiment, le but, quand on dit ici une pleine patience, moi je vois en ça beaucoup d'amour, parce que l'amour est patient. Et le but vraiment, quand on va chercher quelqu'un, on va vers des personnes avec amour. Et on va avec le souci, ici il dit d'instruire, parce qu'il parle à un pasteur. Mais on va vraiment avec le souci d'amener cette personne vers le Seigneur. On ne va pas avec le souci de montrer à cette personne que toi, tu es païen, nous sommes différents et tout vient dans mon camp parce que mon camp est le meilleur. Ce n'est pas ça les sentiments qui nous animent. Les sentiments qui nous animent, c'est vraiment des sentiments d'amour. Et, dans les choses simples, dans les conversations de tous les jours, on n'a pas toujours besoin d'être complètement opposé à ce que les gens disent. Il faut juste écouter les gens. C'est normal que quelqu'un qui n'est pas au Seigneur ait une façon de penser qui ne soit pas biblique. Mais il faut prendre le temps d'écouter les gens et prendre le temps de leur parler de Christ, mais avec simplicité, sans que ce ne soit trop spiritualisé, mais vraiment de façon calme, de façon simple, mais avec beaucoup d'amour. Donc pour moi, le premier point important, lorsqu'on veut persévérer, mais ça va prendre de l'amour, ça va prendre d'être patient envers la personne qu'on veut parler. Ça va prendre aussi beaucoup de sagesse dans le langage, parce qu'il y a une façon de s'exprimer lorsqu'on vient vers les personnes qui ne sont pas converties. J'ai une de mes nièces, comme ça, qui a donné sa vie au Seigneur, et me disait, mais quand elle parle avec les gens de sa famille, elle n'est plus concernée par ce qu'ils disent, parce que voilà, elle a quitté le monde et tout. Et puis moi, je lui disais, mais il faut que tu réussisses à parler avec eux parce que l'impression que tu leur donnes, c'est moi, je suis bien. J'ai réussi, mais
moi, j'ai tout compris, quoi.
Vos trucs ne m'intéressent pas, en fait, parce que c'est dans l'échange, c'est dans le dialogue qu'ils vont comprendre que, ah, OK, nous, on pense comme ça, mais on peut aussi penser différemment. Mmh. Et il y a des personnes qui vont accepter et qui vont épouser cette façon de penser-là et qui vont finir par donner leur vie au Seigneur, en fait.
Mmh. C'est vrai.
Que jamais perdre de vue que c'est le Saint-Esprit qui convainc.
Ouais.
Et persévérer jusqu'à son salut, oui. Mais j'allais dire, il y a 80% de cette phase où on persévère qui va être consacrée à de la prière.
Ah oui.
Parce que persévérer, il y en a qui comprennent mal ça et qui vont persévérer en harcelant la personne. Mm-hmm. Persévérer, ça ne veut pas dire harceler. Mm-hmm. On persévère régulièrement, on passe des messages pour encourager à croire. Mais majoritairement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prier et on va amener devant le trône de Dieu cette personne-là. Mm-hmm. Mais harceler n'est pas la même chose que persévérer.
Mm-hmm. Et c'est persévérer aussi dans cette espérance du jour du salut, finalement.
Ouais.
Parce que si on fait la chose de façon très machinale, par devoir, mais sans croire qu'au bout, il y a le salut d'une personne, qui peut arriver, que c'est possible, parce que parfois, il y a certaines situations qui paraissent tellement désespérées, certains cœurs qui paraissent tellement durs qu'on se dit, mais est-ce que vraiment ça vaut la peine? Bon, au moins, j'aurais essayé, j'aurais fait mon travail. Et puis, on se déculpabilise un peu comme ça. Mais persévérer en croyant que oui, c'est possible que cette personne peut faire fondre son cœur de glace pour laisser l'évangile y pénétrer.
Moi, ce qui me fait, parce qu'on parle de persévérer dans la prière et puis jusqu'au salut, c'est... En tout cas, pour moi, c'est l'enjeu qui est là, en fait. C'est l'éternité de la personne qui fait que tu es motivé. Pour moi, ça me motive énormément parce que je me dis, la personne, si le souffle de vie lui est enlevé dans une semaine, cette personne-là s'en va à une place ou à une autre. Le ciel ou l'enfer, la Bible est claire. Et ça, pour moi, c'est la raison qui me pousse à persévérer. C'est par amour pour cette personne-là, l'enjeu qui est là éternel, parce que j'aime cette personne-là. Je veux que, oui, elle puisse rencontrer Jésus parce qu'elle a une vie sur terre. On sait, Dieu, il ne nous a pas juste sauvés pour nous arracher des flammes de l'enfer. C'est pour que sur terre, on puisse manifester son royaume, qu'on puisse vivre la plénitude de son esprit, qu'on puisse voir. Toutes ces choses-là sont en réserve pour ses enfants. Et pour moi, je me dis, pourquoi est-ce que je persévérerais? Mais c'est parce qu'il y a un enjeu éternel.
Mais
oui. Et ça, pour moi, c'est la plus grande des raisons. C'est par rapport à l'enjeu qui est là. Et puis, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'Anne a dit. Dans ce passage-là qui dit « insiste en toute occasion », ça ne veut pas dire « c'est ça, taper sur les nerfs ». Et ça, il y a beaucoup de gens qui... Moi, je suis content qu'avant que je donne ma vie pleinement au Seigneur, qu'il n'y a pas eu des gens... Il y avait toujours une petite mamie qui pouvait venir me voir. « Tu sais, le Seigneur est là, là tu vois, oui, je le sais. » Et puis, tu vois, t'as pas envie. Hein. Il ne faut pas être cette personne-là. Il faut être la personne qui va encourager, qui va relever, qui va prier pour l'autre. Quand l'autre a vu une épreuve, tu lui dis, ben, « Tu sais, je prie pour toi. » Même si cette personne ne croit pas en Dieu. Même si elle ne croit pas, tu lui dis, « Même si tu ne crois pas, je prie pour toi. » Et là, tu dis rien un peu à la personne, « Ah, merci. » Et en dedans d'elle, ça fait quelque chose. Mm-hmm. Ça fait son chemin. Puis, tu sais, là, il va avoir l'exaucement à ta prière pour sa vie. Puis là, elle va dire, « Ah, mais il a prié pour moi. » C'était quasiment impossible. Et là, il y a toutes sortes, tout ça se met en place. Et c'est tellement important pour moi de persévérer. Puis, premièrement, c'est l'enjeu qui est là.
Oui. Mm-hmm.
Mais ce que Jésus a dit à un moment donné, les disciples, Jésus disait, « Il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu, des cieux. » Et les disciples ont dit, « C'est plus facile à un riche, un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu, des cieux. » Je ne sais plus, Dieu, cieux, c'était quoi?
Des cieux.
Voilà. Bon, en tout cas, un riche d'être sauvé. Et puis, les disciples vont dire, « Mais Seigneur, mais qui peut être sauvé ?» Et là, Jésus va dire, « Ce qui est impossible aux hommes est possible
c'est
à Dieu. »
Exactement à quoi je pensais.
Et c'est là que c'est vraiment important de savoir que c'est impossible à nous. C'est vrai que notre amour va ouvrir les cœurs, disposer les cœurs, mais c'est impossible à un homme, qui qu'il soit, aussi brillant soit-il, d'amener une âme au salut. Ouais. Le salut, c'est le plus grand des miracles et c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est Jésus le souligne en disant, c'est impossible aux hommes, mais à Dieu, c'est possible. Et ça, on doit se souvenir de ça. C'est possible à Dieu et Dieu a besoin de notre collaboration dans la prière, notre collaboration et on doit être sensible à la voix du Saint-Esprit. Et je pense à ce témoignage de Nicky Cruz, on en parlait un peu dans les coulisses, David Wilkerson, l'homme de Dieu, il a été conduit par le Saint-Esprit à aller voir Nicky Cruz, à démontrer son amour en étant présent dans Nicky Cruz. Nicky Cruz le menaçait, le grand gangster. Il disait, je vais te tuer, je vais te couper, je vais te couper en mille morceaux, il disait. Et là, David Wilkerson, rempli d'amour, mais aussi conduit par l'esprit, ouais, conscient que c'est l'esprit qui va le faire, va dire, mais même si tu me coupes en mille morceaux, chacun de mes morceaux te harcèleront, ils continueront, ils ne cesseront de te dire que Jésus t'aime. Et là, il arrivait plus à dormir, il entendait ça. Mais là, c'était l'œuvre du Saint-Esprit.
Ouais, exactement.
On doit être en collaboration avec le Saint-Esprit et être rempli d'amour, comme on disait, pour être toujours présent dans la vie de la personne, dire je suis là, je prie pour toi, je pense à toi, etc. Mais c'est l'œuvre de Dieu et ça, on ne doit pas l'oublier.
C'est vrai.
Et si Dieu a dit que c'est impossible aux hommes, mais possible à Dieu, ça veut dire que Dieu n'a pas dit son dernier mot pour ces personnes
pour lesquelles on prie. Une chose pour les gens qui attendent le salut d'une personne en particulier, comment que moi je fais personnellement, entre guillemets, tu travailles plusieurs terres en même temps. Si tu pries pour une personne et tu ne vois jamais le salut, c'est dur de se fortifier.
C'est ça.
Mais quand tu vois une personne, oh, elle est venue au Seigneur, et après ça, j'ai fait, oh, lui est venu au Seigneur, mais elle va forcément venir tôt ou tard. Et tu travailles différentes personnes, entre guillemets, en même temps, et tu vas voir du fruit et ça va t'encourager à persévérer aussi.
C'est vrai.
Parenthèse. Pensez au témoignage de Pasteur El Hadj Diallo qu'on avait reçu, ça fait peut-être un an ou deux, sur les plateaux de Paroles de Femmes, entre autres. Et le pasteur El Hadj Diallo disait que pendant, je crois, 2 ou 3 ans, son voisin de palier, tous les samedis, il l'invitait pour le lendemain à l'église. Puis il en avait marre qu'il l'invite, parce que lui était musulman de l'origine. Et un jour, il a craqué, il a dit, bon, maintenant, je vais y aller, il va me fiche la paix. Il y est allé, et là, il a eu une vision de Jésus ce jour-là, et il s'est converti. Et donc, c'est important de persévérer. Cet homme-là a persévéré pendant plusieurs années, tous les samedis, à inviter son voisin de palier. Et puis, j'imagine qu'il priait beaucoup pour lui.
Parce que
le jour où il est allé, ben là, tout s'est révélé et s'est ouvert pour lui.
Mais oui.
Donc, il ne faut pas penser que c'est du temps perdu.
Non. Vraiment.
Moi, ça m'a marqué ce témoignage-là, c'est pour ça que je le ressors.
Parce
que je me dis, persévère, tes voisins, dis-leur toujours.
C'est sûr.
Tu peux l'ajouter quelque chose dans le livre. Comme pour toute prière, vraiment, qu'on fait à Dieu, on le fait avec foi, la foi que le Saint-Esprit va agir. Et le moment venu, le Saint-Esprit va agir, parce que c'est lui qui le fait. Parce que parfois, pour nos besoins, on parle beaucoup de foi, on sait que, OK, il faut manifester la foi et tout, mais quand il s'agit du salut d'autres personnes, on prie juste comme ça, et on ne pense pas forcément à ces choses-là, mais on le fait aussi avec foi, sachant que Dieu, il va intervenir et il va agir pour cette personne-là.
Il faut jamais perdre de vue aussi que c'est une guerre d'usure. On ne prie pas pour persuader Dieu que cette personne-là est prête au salut ou sauvable. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se méprennent. Ils prient en présentant les choses à Dieu comme s'il fallait le convaincre. Mais Dieu, il est déjà convaincu. Il a donné son fils à la croix. C'est tout accompli. Donc en fait, c'est en fait une guerre d'usure contre la brume que l'ennemi a mis qui empêche la personne de croire. Donc, c'est une guerre d'usure. Et qui dit guerre d'usure, dit persévérance.
Vraiment.
Et ceux qui vont gagner les âmes, c'est ceux qui vont persévérer. C'est aussi simple que ça.
Vraiment, vraiment. On va regarder maintenant un témoignage qui va nous illustrer à la perfection la persévérance. On va regarder tout de suite le témoignage de la conversion de Yannis Gauthier dans la rubrique « C'est mon histoire ». Et on se retrouve pour la rubrique « C'est mon histoire ». Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Yannis Gauthier. Bonjour Yannis.
Bonjour Evelyne.
Ça va ?
Ça va.
Ça va, super. Très bien. Merci beaucoup de venir nous raconter ton témoignage. Alors, ton témoignage, tu nous l'as raconté un petit peu la semaine dernière dans différentes rubriques. On a vu certains bouts, mais il y a quelque chose que tu as effleuré, mais tu n'es pas vraiment rentré dans les détails, c'est l'implication de Manu, cette fameuse Manu qui est ton épouse, ta merveilleuse épouse. Et pourquoi tu as choisi de nous parler de ta femme aujourd'hui ?
Parce qu'on m'invite souvent pour partager ma vie. Et je suis ce que je suis parce que Dieu a utilisé mon épouse pour me parler. Et finalement, Manu, c'est peut-être le cœur même de mon témoignage, parce que sans elle, je ne sais pas si je serais ce que je suis aujourd'hui. Elle a été l'instrument de Dieu.
Vraiment.
Vraiment. Et pourtant, ça n'a pas été facile. Lorsqu'on s'est rencontrés, c'était... je vais utiliser un mot que beaucoup emploient, le coup de foudre. Un coup de foudre, mais pour moi, c'était simplement humain et représentait vraiment la femme idéal. Mmh. Et j'ai tout de suite vraiment eu... Voilà, j'ai accroché. Et Manu, elle, c'était une personne, voilà, une vingtaine d'années, la vie devant elle, sans problème. Mmh. Et bon, je sais pas si j'avais les qualités requises pour lui plaire, mais en tout cas, je lui ai plu.
Tant mieux.
Et il y a une relation qui s'est établie, mais je pense que si on lui avait dit ce qu'elle allait vivre, elle aurait dit non, c'est pas possible. Ce gars que j'ai rencontré, il va pas me faire vivre un tel calvaire. Et pourtant. Mm-hmm. On dit que l'amour est aveugle, parfois il est sourd même. Et elle a peut-être fermé ses oreilles à ce qu'on pouvait lui dire à mon égard, parce que je représentais vraiment, vraiment pas la personne idéale.
C'est ça.
L'homme avec qui elle aurait pu construire sa vie, un mari ou un père ou je ne sais quoi. J'étais, comme les gens disaient en tout cas, une racaille. Mmh. Une racaille.
Le bad boy.
Le bad boy. Mmh. Mmh. Et je dis souvent, c'est la belle et la bête. Je suis pas une bête, mais...
Au début de l'histoire.
Ouais, c'était vraiment pas beau. Et puis... On s'est installé ensemble. Moi, c'était la première fois, donc je découvrais une nouvelle vie et elle me donnait beaucoup d'amour, beaucoup d'attention, beaucoup d'affection. Elle était proche de moi, elle m'écoutait, mais je gardais beaucoup de choses en moi parce que je lui ai pas fait montrer tout ce que j'avais vécu, toutes mes blessures. Ça va s'en rendre compte progressivement. Mm-hmm. Donc le temps va passer, on va avoir deux enfants, mais les enfants qu'on a ensemble, elle a une maman, mais elle est aussi le papa des enfants, parce que moi, je suis un père absent. Et d'ailleurs, plusieurs fois, je vais quitter le foyer, je vais la laisser seule pour vivre ma vie. Mm-hmm. Ma vie, c'est les sorties, c'est les boîtes de nuit, c'est l'alcool jusqu'au petit matin, la drogue, les potes, c'est ma priorité, tout ça. Et elle subit, elle commence à subir. Elle subit, mais elle a les enfants, donc elle a quelques années de plus que moi, elle a une vision un peu plus... plus mature sur la vie. Elle veut que je sois un père. Mm-hmm. Et oui, on a deux enfants, on va construire ensemble. Mais moi, j'ai un marteau dans les mains. Je détruis tout, je casse tout, je brise tout. La famille, pour moi, j'en ai pas. Donc, il n'y a pas de famille. Et en fait, au fur et à mesure du temps, ce qu'elle me propose comme vie, ça me fait peur. Ça me fait peur. Je rejette cette vie. Je n'ai pas envie d'être un père. Je n'ai pas envie d'être un mari. Et je ne me vois pas me caser... aller bosser, rentrer, je suis auprès des enfants, je suis auprès d'elle. C'est pas ça ma vie. Moi, j'ai été habitué toute ma vie à être dans la rue et puis à faire ce que j'ai envie de faire et on m'impose rien.
C'est ça, et toi, t'as pas eu de modèle, t'as pas eu de repère, t'as pas eu d'équilibre familial. Donc là, elle te propose quelque chose qui fait écho avec rien du tout dans ta vie. T'as aucune idée de ce que c'est, ce qu'elle te propose, mais tu sais juste que t'en veux pas finalement.
Voilà. Et finalement, cet amour, je le rejette. Mm-hmm. Je le rejette et puis je vais. Malheureusement, la traîner dans la boue à cause de mes bêtises. Je vais bien sûr me retrouver en prison pour des vols à main armée, mais elle va être conduite au commissariat, accusée de complicité de vol à main armée. Bref, elle va vivre un véritable calvaire. Et quand on est au plus bas comme ça et qu'il n'y a plus rien, je me retrouve en prison. Elle se retrouve seule, enceinte en plus du troisième, et les deux enfants en bas âge, toute seule. Je lui ai laissé plein de problèmes, elle subit beaucoup de choses atroces, elle est innocente et pourtant je lui ai fait la misère, elle-même plus que ma propre mère, et tout ce que je lui ai renvoyé, c'est mauvais quoi. Et il y a quelque chose qui va me surprendre parce que je me retrouve dans une cellule, donc je mérite d'être en prison, je suis pas innocent, je le sais, et j'accepte même de faire ma peine. Je vais faire ma peine, je pense que voilà, c'est comme ça, et il faut que j'endure, il faut que je traverse cette épreuve.
Ta peine qui se compte en plusieurs années, quand même.
Et là, j'encours une peine de 20 ans.
C'est ça.
Mais je suis préparé à ça, parce que quand on fait ce type de bêtises, on se dit que un jour, ça va arriver. Mm-hmm. Ça arrive à d'autres, ça va t'arriver. Donc, je me suis préparé psychologiquement à ça. Et puis, quand je suis en prison, je suis seul. Mais seul, j'en ai l'habitude. Ça ne me fait pas peur.
Ouais.
Par contre, je vais être surpris. C'est que il n'y a personne qui vient me voir, donc ça, c'est normal, mais je vais être surpris parce qu'elle, elle décide de venir me voir.
Mm-hmm. On a d'ailleurs une vidéo de ce premier entretien. Vous avez fait une reconstitution de ce premier jour où Manu vient te voir en prison. On peut regarder l'extrait, puis tu pourras le commenter après. Okay.
T'es sérieuse, là? Tu viens me voir, là? Mais tu comprends pas ou quoi? Qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai pas dit de faire ta vie? Pourquoi t'es là? Pourquoi tu ramènes mon enfant en prison? Écoute-moi bien, toi. Cette vie-là, c'est la mienne. C'est moi qui l'ai choisie. Alors tu viens pas me voir ici? Plus t'as fait le permis de visite? Non mais sérieux, voilà ce que j'en fais de ton permis. Viens pas me voir.
Tiens, va voir.
Comment ça va toi? Et l'école? Ça va à l'école? Papa, il revient bientôt. D'accord?
D'accord.
Je vais t'écrire. Allez, allez.
Et toi, dis-moi comment tu vas?
Comment je vais? Non, mais t'es sérieuse, là? Comment je vais? T'es sérieuse? J'ai pas une thune. Je suis en galère. Tous mes potes, ils m'ont laissé crever ici. J'ai même pas d'argent pour prendre un avocat. Voilà comment je vais. La juge, elle me fait la misère. La misère. Ça va pas. Mais bon, comme je t'ai dit, c'est mon choix, c'est ma vie. J'assume. J'assume. Oublie-moi, Manu. Oublie-moi. Fais ta vie.
À la semaine prochaine.
Je suis un mur. Je suis un mur. Je suis mort intérieurement. J'ai pas d'émotion. Et... elle me fait peur. Elle me fait peur et j'ai pas envie de souffrir. Je me préserve. Parce que je sais que si j'ouvre mon cœur à Manu, je vais souffrir. Souffrir de son absence, souffrir de la séparation. Et ça, j'ai pas envie. Mm-hmm. C'est une souffrance que je peux pas affronter. Et quand je déchire le permis de visite, en fait, je déchire notre relation. Je la repousse. Pourquoi tu viens me voir? Mais qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? Et quand elle me donne mon enfant dans les bras, là encore, je balance un mensonge à mon enfant.
Oui, je dis, papa revient bientôt.
Je reviens bientôt. Mais non, je ne veux pas revenir. Je sais, mais laissez-moi tranquille. Parce que je veux être seul pour faire ma peine. Et Manu, elle est persévérante. Parce que deux jours plus tard, elle revient me voir. Et là encore, je vais la bousculer. Je vais me braquer. Je vais lui dire, mais je vais lui montrer en fait qu'elle n'a aucune raison de venir me voir. Que sa vie, elle est devant, elle n'est pas avec moi. Moi, il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'avenir. Tu ne peux pas être avec quelqu'un qui est en prison. C'est quoi cette relation? Trouve un mari, t'as une famille, t'es jeune, t'as l'avenir devant toi. Prends un boulot, fais ta vie.
Ben oui.
Laisse-moi.
C'est ce qui serait logique. Mais Manu, au fur et à mesure de votre rencontre, il y a un moment où elle rencontre Jésus, en fait. C'est ça. Et... quand vous vous rencontrez, elle n'est pas chrétienne à ce moment-là, ou elle l'est déjà?
En fait, elle l'est déjà, mais je vais l'amener dans mon monde. Mm-hmm. Elle est amoureuse.
Donc tu vas la détourner un peu?
Je la détourne. Mm-hmm. Et puis, quand on traverse cette situation, elle se tourne vers Dieu.
Ok.
Elle se tourne vers Dieu. Et elle est là. Je réalise qu'elle est là parce qu'elle m'aime pour ce que je suis. Mm. Et c'est tellement important pour moi parce que les gens qui étaient autour de moi m'aimaient pour ce que j'avais.
Oui.
Là, j'ai plus rien et elle est encore là. Et ça, ça me touche. Mm-hmm. Il y a ça qui me touche, mais il y a aussi le fait que elle va porter ce fardeau avec moi, mon incarcération. Elle va prendre mon linge, le laver, mettre du parfum dessus pour que je sente bon dans cette prison. En fait, des petites attentions pour me valoriser. Elle va prendre le temps de m'écrire des lettres. Ça m'aide à tenir. En fait, c'est elle qui me rattache à un semblant de vie. Et en plus, elle porte cette incarcération avec moi. Elle prenait le train, elle la déposait à 2 km de la maison d'arrêt. La station, c'est maison d'arrêt de Bois d'Arcy. elle descend avec ses deux bébés enceintes devant tout le monde.
Aïe.
Et les gens devaient se dire, pauvre femme.
Vraiment.
Elle est enceinte, elle a deux gamins et son mari, il est en prison. Ça, c'est terrible. Terrible, terrible, terrible.
Et là, elle marche 2 kilomètres jusqu'à la maison d'arrêt, c'est ça ? Avec les petits ?
Donc, toutes ces choses, je ne peux pas les ignorer. Je commence à y prêter attention. Je commence à réaliser que oui, elle m'aime. Et j'ai là envie d'aller plus loin. J'ai envie d'aller plus loin. Mais il y a quelque chose qui me dérange profondément chez elle. C'est justement sa foi. Sa foi me fait peur. Elle me parle de Dieu. Elle me parle de son amour. Et ça, c'est... Non. Je t'aime, ok. Mais ne me parle pas de Dieu.
Tu veux rien entendre de
Dieu ? Non, parce que si Dieu existait, je ne serais pas là.
Okay.
Et je n'aurais pas autant souffert. Mais à chaque fois, viens, me parle de Dieu. Et une fois, je suis dans le parloir, je suis en colère. J'ai été voir le juge, elle essaye de remettre un braquage sur mon dos. Je ne vois pas le jour, c'est-à-dire que je ne sais pas quand je vais sortir. Et elle vient et elle a la délicatesse de me dire que Dieu m'aime.
Toi, ça te met hors de toi.
Alors, je me lève, je la prends par le col. Il y a les enfants qui sont là, donc je ne vais pas aller trop loin. Mais je veux qu'elle puisse voir la vie comme moi, je la vois. Se mettre quelques secondes à ma place. Alors, je lui rappelle mes vérités. Hey, Manu, mes parents m'ont abandonné. Ouvre tes yeux quand même. J'ai toute ma vie souffert. J'ai galéré. J'ai fait les poubelles pour manger. Toi, tu viens me dire à moi que Dieu m'aime. Non, mais t'as perdu la raison.
Tu peux pas recevoir cet amour, en fait.
Mais non, mais non. J'ai dit, le seul amour que j'ai reçu dans ma vie, c'est celui de mon chien. Mon chien qui essuyait mes larmes quand je pleurais. Il y a que mon chien qui me donnait de l'attention, de l'affection. Quand je rentrais à la maison, j'étais pas heureux de voir qui que ce soit. J'étais heureux de voir mon chien. Je m'enfermais dans ma chambre pendant des week-ends entiers avec mon chien. C'était mon chien, il y a rien d'autre. Manu, tu m'aimes toi, mais Dieu ne m'aime pas. Dieu ne m'aime pas, Manu. Mais ce que j'ignorais, c'est que plus je lui disais ça, plus elle s'enfermait dans cette vérité. Dieu peut toucher son cœur. Elle réalise que je suis un écorché de la vie. Je suis blessé, je suis meurtri. Il y a des dégâts pas possibles. Et voilà, elle prie que Dieu puisse toucher mon cœur.
Qu'est-ce qui lui donne cette persévérance à Manu, là ? Pourquoi elle ne renonce pas ?
C'est peut-être parce qu'en face de elle, elle a quelqu'un qu'elle aime et qui est détruit. Et elle a de la compassion. Et elle a le père de ses enfants. Elle a l'homme qu'elle aime. Donc, mais on ne peut pas expliquer les interventions divines.
Ouais. Parce que c'est par amour, finalement, pour
oui,
toi, en fait.
C'est par amour. C'est comme ça, c'est la personne que Dieu a mis à mes côtés. Et il lui a donné la force au moment voulu pour être ce qu'elle devait être. Je ne sais pas si elle pourrait refaire les mêmes choses aujourd'hui, mais je sais qu'elle a été la personne qu'il fallait au bon moment. Et le jour où vraiment je suis convaincu, où j'entends Dieu me parler dans ma cellule, je vais la voir. Je vais la voir dans le parloir et je vais juste lui demander si Dieu peut pardonner quelqu'un comme moi. Et quand elle entend ça, elle se met à pleurer. Là, ce n'est plus la femme forte. Ce n'est plus la femme... elle pleure. Elle pleure. C'est comme s'il y a quelque chose qui vient d'éclater chez elle. Il y a un fardeau qui vient d'être ôté. Elle pleure. Et puis là, effectivement, elle me livre son secret. Il y a tellement longtemps que je prie Dieu pour qu'il touche ton cœur.
Wow.
Tellement longtemps que je pleure devant Dieu. Elle n'a pas pleuré devant moi, mais elle a pleuré devant Dieu pour qu'il intervienne dans ma vie. Et là, elle me dit, aujourd'hui, là, bah, Dieu a entendu la voix de mes larmes. Et il vient d'exaucer mes prières. À partir de cet instant, même s'il y avait encore énormément de travail à faire, elle était convaincue que Dieu venait d'exaucer ses prières. Et elle avait raison.
Elle a vu ton cœur s'ouvrir, en fait. D'un coup, tu t'es demandé...
Il y a une brèche qui est ouverte.
Voilà. Finalement, tu te poses la question, est-ce que Dieu peut faire quelque chose pour moi ? Ça veut dire que tu donnes l'opportunité à Dieu d'intervenir, en fait.
Il y a une brèche qui est ouverte. Et on va juste voir Dieu venir confirmé tout ce que Manu m'a dit au parloir. Elle me disait Dieu même. Elle me disait, Dieu peut faire quelque chose pour toi. Quand je lui disais, il n'y a plus rien à faire, je vais rester 20 ans là. Elle me disait, Dieu, il peut te libérer. Je ne la crois pas. Ça, c'est... Comment ? Eh bien, 7e mois de mon incarcération. Dernière semaine de la grossesse de Manu. On est ensemble, on est au parloir. On se quitte. Le directeur demande à me voir. J'arrive à son bureau, il est furax, en colère. Et il me dit, qu'est-ce qui va ? Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Des gens comme vous, on les garde au chaud. Vous êtes un criminel, quelqu'un de dangereux. Mais pourquoi vous me dites tout ça? Il me montre un fax. La juge d'instruction, elle vient décider de vous libérer provisoirement. Faites votre pactage, rentrez chez vous.
Waouh!
Waouh! Moi, ça fait que 7 mois que je suis en prison, j'encours une peine de 20 ans. Je dois attendre 3 années avant d'être jugé, je suis libre.
C'est miraculeux.
Et là, je sors de la prison. J'arrive à la maison. Manu m'accueille. Elle me prend dans ses bras. Dieu avait répondu à ses prières. Mais il faut croire que Dieu avait besoin de confirmer encore quelque chose dans mon cœur pour affirmer ma foi. Nous allons dans le salon. On se met sur les genoux avec les enfants. On prie, on remercie Dieu. Et là, Manu me dit, chérie, attrape la valise qui est là. Je vais mettre notre enfant au monde.
Wow.
Quelques heures plus tard, je coupais le cordon ombilical de mon petit bébé. Je promettais à Jésus de le suivre jusqu'à la fin de mes jours. Et ça, c'est pas humain, c'est divin.
C'est extraordinaire. Et en plus, finalement, il y a eu le procès quand même, qui a eu lieu rapidement, parce que ça, c'est miraculeux aussi. Le procès a lieu et la juge décide de t'acquitter, en fait.
Elle voit un homme qui a été recyclé, quelqu'un de nouveau. Elle regarde les rapports, elle regarde mon casier judiciaire, elle dit, mais c'est pas possible. Ce gars-là, il boit plus, il se drogue plus, on l'a plus vu au commissariat, il travaille, il est marié, totalement réinséré dans la société. Une peine de sursis suffira. Je suis ressorti libre du tribunal.
Incroyable. Alors que tu en courais 20 ans.
Alors que j'en courais 20 ans. Et là, ça fait des années. Et je n'ai plus jamais remis les pieds au commissariat. Par contre, en prison, j'y vais toujours.
C'est ça, pour aller témoigner.
Pour aller témoigner. Plus en tant que détenu, hein, mais en tant que prédicateur de l'Évangile. Et ça, c'est juste extraordinaire.
C'est extraordinaire. Et ce que je trouve le plus incroyable, c'est la persévérance de Manu dans tout ça. Et oui, vraiment, et qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui nous écoute, qui prie depuis des années pour la conversion de son mari, de sa femme, de son fils, de sa mère, de son père, peu importe, et de te dire comment tu peux les encourager, en fait?
Il y a des combats qu'on livre qui sont nos combats. On est armé de la part de Dieu pour combattre pour nos enfants, pour combattre pour notre époux, notre épouse. Et peut-être que vous traversez une situation similaire. Soit vos enfants sont partis de la maison, vous avez envie de les revoir, ils ne sont plus là, ils sont absents. Téléphone sonne, vous avez peur qu'on vous annonce une mauvaise nouvelle. Ou alors votre mari qui est réfractaire, votre épouse qui se braque contre votre foi. Il ne faut pas lâcher, il faut prier. La Bible dit dans le livre de Jacques, la prière du juste, elle est efficace. Dieu entend chacune de vos prières. Même le psalmiste disait, Dieu a entendu la voix de mes larmes. Même vos larmes parlent à Dieu. Alors vous pouvez crier à Dieu. Vous pouvez le supplier. Et sa main n'est pas trop courte pour venir à votre secours. Dieu a ses temps, il a ses moments. Mais quand il intervient, tout change.
Amen, amen. Merci Yanis, merci beaucoup. Et merci Manu. Manu, si vous regardez cette vidéo, je veux vous remercier d'avoir persévéré jusqu'au salut de Yanis, parce que la francophonie est au bénéfice de ton salut, de ce que Dieu a fait dans ta vie. Et on glorifie vraiment Dieu pour ta vie. Merci d'être venu nous raconter ton témoignage.
Merci de m'avoir invité.
Alors, vous avez sûrement besoin peut-être d'un petit peu de temps pour vous remettre de ce témoignage qui est quand même assez hors du commun, mais on voit que Dieu est venu vraiment sauver ceux qui étaient perdus, comme je l'ai lu dans le verset du jour, et on voit vraiment la persévérance de cette femme. C'est vraiment encourageant de se dire que quand on est conduit par le Saint-Esprit comme ça à poser des actes qui paraissent complètement inutiles, du temps perdu, de l'énergie perdue, ou avec tes propres yeux, tu te dis « bon, là, je suis en train de perdre mon temps, ça sert à rien ». Il est en train de se passer quelque chose qu'on réalise pas,
tout comme dans l'exemple que tu as cité avant le témoignage concernant ce monsieur qui allait inviter tous les samedis soirs son voisin de palier, je pense qu'il était conduit par le Saint-Esprit à faire ces choses-là. Et je pense qu'à la maison, vous avez peut-être pensé à des personnes pour qui vous avez peut-être persévéré pour un temps, vous avez finalement baissé les bras. Je vous invite vraiment à revenir à cette persévérance du début. Recommencer à croire pour le salut de cette personne. Recommencer à croire que c'est possible. Si ça a été possible pour quelqu'un comme Yanis Gauthier, c'est possible pour une autre personne. Il n'y a pas de cœur trop dur que Dieu ne peut pas transpercer. Mais prenez un temps, peut-être pour être conduit par une, pour avoir une stratégie du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va peut-être vous dire de prier et jeûner pour cette personne, rien d'autre. Le Saint-Esprit va peut-être vous dire, va lui parler régulièrement, tout comme c'était le cas de David Wilkerson. Jésus t'aime, il répétait ça à Nicky Cruz. Il était conduit par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut vous conduire d'une façon très spécifique pour une personne très spécifique. Et vous allez forcément, un jour ou l'autre, voir le fruit de cette persévérance. Mais je vous le rappelle, ça peut être très rapide comme ça peut être très long, mais l'important c'est que vous restiez persuadé que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Je vous remercie à tous pour cette émission. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine pour de nouvelles émissions de Bonjour chez vous. Je vous souhaite à tous un merveilleux week-end. Soyez bénis et surtout, bonjour chez vous.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de EMCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur emcitv.com.